Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons ensemble de l'Empire Bolloré en Afrique, avec en toile de fond évidemment la mise en examen en France de Vincent Bolloré pour corruption d'agents publics étrangers dans l'attribution des concessions portuaires de Conakry et Lomé. Alors vous le savez, l'industriel nie en bloc ces accusations. D'ailleurs hier, dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, il a dénoncé une chasse aux sorcières visant à montrer l'Afrique, je cite, comme une terre de non-gouvernance et de corruption. Il a tout de même rappelé que son groupe a investi 4 milliards d'euros sur ce continent, que son empire a créé énormément d'emplois. Alors justement, quelle image vous renvoie Vincent Bolloré? Ces investissements sont-ils finalement bénéfiques pour votre pays? On vous attend évidemment au standard. Vous nous rejoignez ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vous continuez à poster vos réactions sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité et je lirai quelques-unes de vos réactions tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Avant de passer au standard avec vos questions à la rédaction, si vous nous écoutez à Dakar, je vous rappelle que ce jeudi, le 3 mai, nous serons dans la capitale sénégalaise pour l'enregistrement de plusieurs émissions en public. Attention, attention, nous vous donnons rendez-vous non plus à l'UCAD comme initialement annoncé, mais à l'Université des Savoir-Faire sur le campus du Golfe. On vous y attend dès 9h du matin. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour vous donner le programme de cette matinée du jeudi. À 9h30, Alain Focat enregistrera son débat africain. À 10h30, je vous proposerai de dresser un bilan de l'action de Macky Sall à 10 mois de l'élection présidentielle. À 11h30, vous pourrez assister à l'émission de Jean-François Cadet, Vous m'en direz des nouvelles, émission qui sera d'ailleurs consacrée au rap et hip-hop sénégalais. Et à 12h30, deuxième émission d'appel sur l'actualité, gros plan sur le franc CFA. Nous répondrons à toutes vos questions sur cette monnaie qui, vous le savez, divise. Et nous aurons parmi les invités notamment la présence du directeur national de la BCAO pour le Sénégal. Donc soyez nombreux ce jeudi à partir de 9h à l'Université des Savoir-Faire sur le campus du Golfe. Il est 10h13 à Paris. On vous donne la parole, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Des questions d'ailleurs pour commencer sur Robert Mugabe, l'ex-président zimbabwéen. Bonjour Claude.
Bonjour Juan, merci de m'accueillir sur l'antenne RFI.
Eh bien nous sommes ravis de vous avoir ce matin. Vous êtes à Douala au Cameroun, nous vous écoutons.
C'est bien ça, Juan. Mais permettez-moi, Juan, en une minute, de vous rendre un grand hommage, pas seulement à votre équipe, mais à l'ensemble de la rédaction RFI, qui s'emploie sur beaucoup de sujets qui, quelquefois, sont tabous dans nos pays. Vraiment, grand hommage à RFI.
Bah, merci de vos encouragements. On vous écoute.
Alors, l'ancien président zimbabwéen, Robert Mugabe, a été convoqué tout récemment par le Parlement à venir s'expliquer sur la disparition de diamants estimés à une valeur de 15 milliards de dollars. Alors, à ce sujet, j'ai une question. Comment envisager la suite de cette convocation, d'autant plus qu'il bénéficie d'une immunité judiciaire acquise lors de sa démission forcée?
Oui, alors c'est vrai que c'est la semaine prochaine, hein, théoriquement le 9 mai, que l'ancien homme fort du Zimbabwe devra s'expliquer devant le Parlement. Bonjour Alexandra Brangeon.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI. Revenons d'abord sur ces revenus diamantifères qui ont disparu.
Oui, alors depuis des années, hein, les organisations anticorruption dénoncent le détournement des revenus miniers par des sociétés étrangères qui, associé au gouvernement, exploite ces mines. Je vous rappelle que l'État est censé détenir 50% du capital de ces sociétés. Un exemple, il y a plus de 10 ans, le Zimbabwe découvrait une des mines de diamants les plus importantes au monde. Il s'agit du site de Marenge, dans l'est du pays. L'exploitation devait apporter beaucoup d'argent à l'État, permettre de financer le développement du pays. Or, ça n'a pas été le cas. Selon ces ONG, les revenus de ces sociétés disparaissent sur des comptes à l'étranger et aucune taxe n'est payée. Donc c'est de ça dont on parle. parle quand on évoque la disparition des revenus du diamant. Et il y a 2 ans, le président Robert Mugabe, lors d'un discours d'anniversaire, a dénoncé le fait que ces revenus disparaissent et il a évoqué le chiffre de 15 milliards de dollars.
Oui, c'est lui-même d'ailleurs qui avait avancé ce chiffre de 15 milliards de dollars et c'est donc sur ces 15 milliards de dollars qu'il est convoqué la semaine prochaine pour s'expliquer.
Voilà, c'est une première, le fait qu'il soit convoqué devant le comité parlementaire en charge des mines et de l'énergie, c'est un côté extrêmement symbolique, il va devoir rendre des comptes. Maintenant, l'ex-chef de l'État est invité à s'expliquer en tant que simple témoin.
Ça oui, c'est une invitation. Hein.
Tout à fait.
Le texte
est flou d'ailleurs, oui. Parce qu'on ne sait pas si c'est une obligation, s'il a pour obligation de s'y rendre ou pas. On ne sait pas. S'il ne s'y rend pas, on ne sait pas ce qui pourrait lui arriver. Ça n'est pas une cour, il n'est pas accusé, et donc il est juste là pour donner des informations dont il pourrait disposer. Maintenant, votre auditeur parle d'une immunité judiciaire. Oui. Officiellement, il n'y a pas de package d'immunité dans son plan de départ. Hein. Le gouvernement ne peut pas lui promettre cela. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un arrangement ? De toute façon, soyons réalistes. L'État possède une partie de ces sociétés minières. Donc s'il y a eu détournement, ça fait qu'il y a eu complicité du gouvernement ou du moins de haut cadre du gouvernement. D'ailleurs, les organisations anticorruption ont beaucoup évoqué les liens entre les services secrets, l'armée et ces sociétés minières, insinuant que les revenus détournés avaient servi à enrichir les dirigeants de ces entités. Donc, c'est sûr que le comité en charge des mines et de l'énergie est particulièrement actif ces derniers mois, depuis le départ de Mugabe, convoquant des anciens ministres, des chefs de police. Mais on imagine mal que l'actuel vice-président du pays, le général Chiwanga, qui est l'ex-chef d'état-major du pays, accepte une enquête sur des détournements de ses revenus, alors que lui-même pourrait être impliqué dans ces détournements. Donc pour finir, en convoquant Robert Mugabe, le gouvernement fait passer un message clair. Il est en train de s'attaquer à la corruption, à la mauvaise gestion. Mais est-ce réellement le cas ou est-ce un simple effet de communication pour apaiser les Zimbabwéens à quelques mois des élections et apaiser les investisseurs étrangers ?
Affaire à suivre évidemment. Bonjour Claude, a-t-on répondu à vos questions ?
Parfaitement. Merci Alexandre
Brangeon. Alexandra Brangeon du service Afrique de RFI. Bonne journée à tous les deux. 10h17 à Paris. Ce sont vos questions. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Pierre Pinto du service Afrique est également à mes côtés ce matin. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan.
Des questions sur la Centrafrique et notamment sur la présence des Russes. Bonjour Simon.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Nous vous écoutons.
Bienvenue à Yaoundé, tout comme à Dakar, nous vous attendons dans les prochains jours au Cameroun.
Bah écoutez, peut-être qu'un jour, effectivement, nous ferons escale à Yaoundé, au Cameroun, pour réaliser des émissions en public. Alors vous, vous avez entendu sur RFI cette information concernant la présence civile et militaire de Russes en Centrafrique.
Effectivement, Juan, et fort à propos, je voudrais savoir, Juan, qu'est-ce qui peut expliquer donc l'intérêt subit de la Russie pour la Russie centrafricaine en général et pour la zone de PK5 en particulier ?
Le PK5, ce quartier à majorité musulmane au cœur de la capitale centrafricaine, Pierre Pinto, c'est vrai que la présence russe en Centrafrique suscite beaucoup d'interrogations, voire même des fantasmes.
Oui, mais c'est pas si subi que ça, hein, pour reprendre le terme de Simon. Tout est parti d'une rencontre en octobre dernier à Sotchi. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a invité sur les rives de la mer Noire le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Le communiqué qui a suivi la rencontre est assez vague, mais il donne en fait le là sur ce que sera par la suite la relation centrafricano-russe. Il évoque ce communiqué une coopération pratique dans les domaines politique, commercial, économique et social et constate le potentiel significatif de partenariats en matière d'exploitation des réserves minières ainsi que de livraison d'équipements industriels russes, de matériel agricole et d'énergie en Centrafrique. Fin de citation. Bref, ça ouvre la voie à une coopération vaste. Quelques semaines plus tard, la Russie obtient une levée partielle de l'embargo sur les armes qui pèse sur la Centrafrique. Moscou peut ainsi livrer un important équipement militaire, des fusils mitrailleurs, des mitrailleuses lourdes, des revolvers, etc. Des équipements neufs et suffisants pour équiper 3 bataillons des FACA qui achèvent, eux, leur entraînement avec l'Union européenne pour leur permettre ainsi d'être déployés sur le terrain. En plus de cette cession gratuite d'armes au gouvernement, récemment, Moscou envoie sur place des militaires pour former les soldats centrafricains au maniement de ces équipements. Des instructeurs qui s'installent dans l'ancien domaine de Bokassa, à Berengo, 70 km de Bangui.
Ce qui suscite d'ailleurs la colère de la famille Bokassa.
Oui, parce qu'à Berengo, c'est là que repose Bokassa, l'empereur Bokassa. Et la présence de ces militaires centrafricains et russes à quelques mètres seulement du mausolée de l'empereur, eh bien, irrite la famille Bokassa. Et la discrète présence des militaires russes commence d'ailleurs à cette occasion à s'ébruiter. Petit à petit, cette présence est d'ailleurs de moins en moins discrète. On aperçoit un conseiller russe dans la garde rapprochée du président Touadéra lors de cérémonies officielles ou de déplacements. Des gardes du corps, certains militaires russes sont vus dans des véhicules de gendarmerie centrafricaine ou aperçus en ville, ici ou là.
Et même dans certains cabinets de ministres.
Voilà, des Russes dont certains seraient en fait des coopérants militaires, d'autres des employés de compagnies privées, officiellement salariés de sociétés mises sur pied en RCA, comme la Lobai Limited ou Sewa Security Service. Puis on apprend qu'une délégation russe s'est rendue à Cotonou pour rencontrer l'ancien chef de l'État Michel Djotodia, officiellement toujours président du FPRC, afin de discuter de l'éventualité d'un accord minier dans les zones contrôlées par le mouvement issu de l'ex-LECA. Selon le FPRC, cette délégation aurait aussi rencontré en RCA Noureddine Adan, mais sans trouver de terrain d'entente. Au contraire, même, la présence des Russes agace fortement au sein des groupes armés, à tel point que c'est l'une des raisons invoquées par le FPRC pour menacer de prendre Bangui. L'autre raison ou prétexte étant les opérations menée il y a deux semaines au PK5 avec la MINUSCA, notamment pour tenter de mettre la main sur ce fameux force, chef de gang local, mais sans succès.
Oui, et pourquoi s'intéresse-t-il à ce quartier du PK5?
Alors justement, concernant le PK5, il y a une semaine, un Russe, présenté comme étant le conseiller de Touadéra, et son interprète sont venus plusieurs jours d'affilée rencontrer les notables du quartier, proposer au chef de quartier des vivres à distribuer à une trentaine de personnes vulnérables dans chacun des 11 quartiers que constitue le 3e arrondissement. Opération séduction, clairement, dans une zone où les Russes sont perçus comme des auxiliaires du pouvoir en place et donc suscite la méfiance, sont pas très bien vus. Mais cette opération va au-delà du caritatif, puisque on a appris que ces Russes avaient pris contact avec, par exemple, les gens du comité de prévention des crises du PK5 qui tentent, eux, d'obtenir le désarmement des groupes d'autodéfense par la discussion. Il semble donc qu'ils veulent savoir ce qu'il se dit ou participer à ces discussions et tenter ainsi de désamorcer les tensions. C'est plutôt positif, finalement, comme démarche, si ça ne court-circuite pas les discussions en cours. Mais à mesure que le temps passe, on découvre chaque semaine des implications des militaires coopérants ou contractors russes de plus en plus prégnantes dans d'autres domaines que la simple coopération militaire avec les FACA, comme c'était présenté au début.
Voilà, si vous nous écoutez à Bangui, que vous souhaitez d'ailleurs réagir à la présence des Russes dans votre ville, appelez-nous, votez témoignage évidemment nous intéresse. Simon, a-t-on répondu à vos questions?
Parfaitement bien, Juan, et merci à Pierre Pinto.
Merci à vous. À bientôt, Pierre Pinto.
Bonne journée, merci.
Bonne journée, 10h24 à Paris. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Plusieurs questions sur la Corée du Nord. Mathieu Duchâtel, directeur adjoint du programme Asie au Conseil européen des relations internationales, vous répondra dans un instant en direct. Une première question posée par Bréma. Bonjour.
Et bonjour, Juan.
Vous nous appelez d'Oujda, c'est au Maroc, vous êtes à 330 km de Rabat, nous vous écoutons.
Exactement. Récemment, Kim Jong-un avait fait une déclaration dans laquelle il disait mettre fin aux essais nucléaires et balistiques. Mais vu que la Corée du Nord possède déjà l'arsenal nucléaire en poste, est-ce que dans cette situation, on peut parler de la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne?
Bonne question, d'autant que les États-Unis, vous le savez, Bréma, exigent une dénucléarisation complète. Bonjour Mathieu Duchâtel.
Bonjour.
La Corée du Nord a effectivement annoncé la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux, mais quid du démantèlement de son arsenal?
Ah oui, effectivement, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ce que la Corée du Nord a annoncé la semaine dernière, la fin des essais nucléaires et la fin des essais de missiles intercontinentaux, je crois qu'on peut dire que c'est une concession qui est en trompe-l'œil, parce qu'elle s'insère dans une logique nord-coréenne qu'il faut voir un petit peu sur le plus long terme que seulement sur cette semaine. La Corée du Nord, au mois de novembre dernier, avait déjà annoncé qu'elle avait atteint une capacité de dissuasion crédible, c'est-à-dire qu'elle a confiance en ces différents programmes, ces programmes d'enrichissement d'uranium, ces programmes de construction de plutonium de rang militaire, ces missiles intercontinentaux et évidemment ces armes nucléaires. Tout ça, elle considère qu'elle l'a sécurisé. Et ce qu'elle veut dire quand elle parle de cessation des essais, c'est que, en fait, elle est prête à entrer sur la voie diplomatique, oui. Mais en tant que puissance nucléaire.
Oui, mais il s'agit d'un gel, si j'ai bien compris.
Oui, c'est un gel. Effectivement, le terme de gel est le plus approprié.
Ah oui.
Et on parlait de gel déjà depuis l'année dernière. C'était la proposition, d'ailleurs, des Nord-Coréens dès 2014. Puis ensuite, ils l'ont retiré de la table. Les Chinois et les Russes soutiennent l'idée d'un gel. Ce que les Nord-Coréens disent, c'est nous gelons nos essais, mais en échange, on attend de la part des États-Unis et de la Corée du Sud des concessions aussi. Donc, ça crée une certaine atmosphère qui est positive.
Oui.
C'est évidemment une concession qui est réversible à tout moment, même si on peut tout à fait imaginer qu'une reprise des essais nucléaires ou des essais de missiles intercontinentaux créerait une crise d'une ampleur sans précédent. Mais ça reste une concession réversible. Et c'est essentiel que cette concession soit réversible. Mmh. Et surtout, ça laisse complètement à côté la question du désarmement nucléaire. Et là, ça nous amène à ce que veulent dire les Nord-Coréens quand ils parlent de, dans la déclaration de Panmunjom de vendredi dernier, de but commun de réaliser une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.
Alors justement,
les Coréens ont employé.
Mathieu Duchâtel, vous parliez de ce sommet historique entre les deux dirigeants nord et sud-coréens. Hugo nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour Hugo.
Bonjour Juan.
Nous vous écoutons avec Mathieu Duchâtel.
Ok, je devais d'abord remercier l'équipe de RFI.
Attendez, posez votre question parce que le réseau téléphone n'est pas très bon, allez-y.
Deux hommes vont annoncer un traité de paix.
Alors le réseau s'est dégradé, je sais que mes équipes, les techniciens s'arrachent les cheveux pour essayer d'établir une bonne liaison téléphone depuis 20 minutes avec Pointe-Noire, on n'y arrive malheureusement pas. Alors Mathieu Duchâtel, je me fais le porte-parole d'Hugo qui dit que les deux présidents ont annoncé vouloir signer un traité de paix d'ici la fin de l'année et Hugo voulait savoir quels seraient les termes de ce traité de paix. Juste, il faut rappeler aux auditeurs que les deux pays sont juridiquement, techniquement toujours en conflit.
Oui, tout à fait. Alors, quels seraient les termes d'un traité de paix? C'est une question qui est encore assez théorique. Ce qu'il faut voir, c'est que les deux Corées, les États-Unis et la Chine sont liés par un traité d'armistice, l'armistice de juillet 1953. Donc, ça fait déjà 65 ans. Et l'idée des deux Corées, c'est de transformer cet armistice en traité de paix. Est-ce que c'est possible à deux seulement? C'est difficile. On peut tout à fait imaginer que les deux Corées ont un certain espace pour faire des déclarations de non-agression mutuelle, pour se promettre aussi mutuellement qu'elles ne s'agresseraient pas. Et d'ailleurs, il y a certains éléments qui vont dans ce sens dans la déclaration de Panmunjom de vendredi. Mais la question centrale de la transformation de l'armistice en régime de paix, c'est quand même la nature des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Ça nous ramène à des questions qui vont au-delà, en fait, d'une simple déclaration mutuelle entre les deux Corées de non-agression, fin de la guerre de Corée. Ça pose la question des armes de destruction massive nord-coréennes. Ça pose la question de la nature de la présence américaine sur la péninsule coréenne, de la nature du lien entre les États-Unis et la Corée du Sud. Donc, ma réponse, c'est un accord de paix entre les deux Corées. Il y a un certain espace, mais un véritable régime de paix sur la péninsule coréenne ne peut pas ne pas inclure les États-Unis et la Chine.
Ouais, d'ailleurs, le président Donald Trump doit rencontrer le dirigeant nord-coréen dans les prochaines semaines, fin mai, début juin. La rencontre de vendredi dernier a permis en tout cas de créer, on va dire, une atmosphère positive en vue de ce face-à-face. C'est déjà un bon point.
Tout à fait, l'atmosphère est tout à fait positive, elle est même beaucoup plus positive que ce qu'on aurait pu imaginer. Ça a été un grand succès pour les deux présidents. Kim Jong-un s'est montré sous un nouveau jour, avec une certaine aisance, oui. Une capacité aussi à improviser.
Jouant avec son homologue sud-coréen à franchir de part et d'autre la frontière nord-sud. Enfin bon, voilà, il y avait de l'émotion, il y avait ces deux présidents qui se tenaient main dans la main et l'objectif affiché, l'objectif commun officiellement, obtenir une dénucléarisation totale de la péninsule. Dossier à suivre évidemment. Merci Mathieu Duchâtel de nous avoir accordé quelques minutes de votre emploi du temps pour répondre aux auditeurs auditeurs de RFI. D'autres questions à la rédaction demain. D'ici là, vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Demain 1er mai, ne vous inquiétez pas, on sera évidemment en direct à suivre le journal. Et dans 10 minutes, vos réactions sur l'Empire Bolloré sur le continent africain.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.